Radio Libertaire reprend, c'est l'émission Chronique Hebdo. Vous savez que ce matin, on va y arriver. Alors, pour des auditeurs nous ont dit pour Fred Maurice, on va essayer un petit peu mieux la réception en installant deux micros. Alors, je voulais dire juste, hein, Fred, on vient d'entendre Yvan Dautin entre le marteau et l'enclume. Yvan Dautin sera présent au forum, un concert, Léo Ferré. Je vous le rappelle, forum Léo Ferré, 11 rue Barbès, à Ivry-sur-Seine. Le 12 novembre, hein, c'est dimanche, à partir de 17h. L'ouverture des portes est à 16h. Alors, je vous lis quelques lignes de notre ami Laurent Garibian. Vous savez, les émissions sur la chanson, de Rimes et de Notes avec Marlène, ou d'autres chansons où intervient Laurent Garibian, d'autres émissions où intervient Laurent Garibian, présentant Yvan Dautin. Là, c'était quelques lignes publiées en novembre 2012 dans le magazine Vinyle que je vous conseille. Yvan Dautin distille un propos doux et amer, où la désespérante lucidité laisse transparaître la tendresse et amour de la vie. Yvan Dautin libère en effet une énergie maîtrisée tout en nuance, avec en fil rouge la fidélité à ses convictions libertaires. Il donne, comme souvent, parle peu de lui à la première personne. Il nous propose d'émouvants portraits, compose des scénettes évoquant ses vies cassées, ses vies en manque, ses vies en quête d'amour infini. Yvan Dautin puise aussi son inspiration dans la difficulté de vivre des gens simples à la manière d'un cinéaste du quotidien. C'est quelques lignes dans le magazine Vinyle, le dernier album d'Yvan Dautin, à mon appart. Et puis là, la possibilité, donc au forum Léo Ferré, dimanche à 17h, je vous le rappelle, 11 rue Barbès, Ivry-sur-Seine, le téléphone, le 01 46 72 64 68, 01 46 72 64 68. Une auditrice aussi nous précisait que, on l'a évoqué la semaine dernière, a eu lieu le forum social mondial antinucléaire à la Bourse de Travail, c'était à Paris. D'autres lieux pour ce forum sur 3 jours. Évidemment, des choses qui ont été dites n'ont pas été reportées dans les médias. On n'en sait rien de ce qui s'est passé. Vous pourrez lire à ce sujet Jean-Luc Porquet, vous savez, qui suit les questions nucléaires, les questions d'écologie, les questions politiques et sociales dans le Canard Enchaîné. L'article, vous le savez, qui s'appelle Plouf, un casse-tête durable forcément, et qui revient sur les centrales nucléaires qu'on ne sait pas démanteler, ou si on les met en petits morceaux. Comme me disait cette auditrice, savez-vous que en Île-de-France, c'est 500 transports de matières radioactives. Ça passe sur les lignes RER en Île-de-France. C'est plus d'un train par jour et personne ne le sait. C'est ça qui est formidable, vous le savez, comme le système de l'autruche. On parlait des animaux. La tête dans le sable radioactif, personne ne sait rien. Ce sont des choses qui se sont dites lors de ce 3e forum social mondial antinucléaire, et donc qui n'ont pas, vous en doutez bien, été rapportées par les médias, qui sont évidemment des médias uniquement de propagande. Il n'y a plus que ça. Enfin, on va pas revenir sur le sujet. Vous le connaissez, à ce sujet, Fred, la revue Acrimed, en particulier, donc on peut conseiller aux auditeurs, et pour les auditeurs aussi, d'aller voir. Vous pouvez aller voir sur le site blog d'Acrimed, association critique des médias, pour avoir plus d'informations, enfin en tout cas sur tous les sujets non traités et de la manière dont c'est traité dans les médias capitalistes. Alors,
se procurer le magazine, En le commandant, en fait, on peut simplement s'abonner. Il est pas en kiosque.
C'est pas en kiosque.
Non, c'est qu'on fait le choix de fonctionner comme
ça.
Donc, faut s'abonner. Et après, on peut je crois qu'on peut lire la version numérique quelques mois après, parce que ça paraît que 3 ou 4 fois dans l'année. Mais voilà, donc ils font toujours un travail très intéressant.
Exact. Alors, le sujet, Fred, donc on a évoqué différentes questions. La question écologique est là aussi. Peut-être un auditeur va nous dire si on t'entend bien. Alors, on va essayer de voir ça. Je vais donc par une petite, un petit peu de musique pendant quelques secondes d'intervention. Et tout de suite, nous reprenons l'émission. Chronique Hebdo, Radio Libertaire reprend avec justement les petits réglages. C'est important, c'est ce qu'on a dit en radio, c'est déterminant.
C'est mieux qu'on nous entende.
C'est pas la peine. Alors, Fred, on reprend donc pour. Tu es venu, on a parlé de ton actualité aussi, des illustrations sur le blog de Chronique Hebdo. Les derniers ouvrages. Je crois que là, pour les auditeurs, plutôt les parties musicales, nous ne pouvons plus répondre pour le moment. Alors, le dernier ouvrage pour lequel, donc celui-là n'est pas forcément, tu me dis, encore en librairie.
Il n'est pas encore en librairie, voilà.
De la Cité Fleurie, édition Champ d'Ortie, donc Fred Maurice. Alors, là aussi, tu me disais, ça reliait à 2 précédents ouvrages,
oui.
Qu'on peut trouver, je crois, à Publico.
Alors,
il n'y a pas que là. Hein.
Le premier, on peut le trouver assez facilement, les disparus de la Cité Fleurie. Le second, c'est plus difficile parce qu'en fait, je l'ai auto-édité. Comme j'ai eu du mal à trouver un éditeur, donc finalement, au bout d'un moment de recherche, j'ai préféré le fabriquer moi-même. Et j'ai pas cherché à le diffuser au-delà de mon entourage. Par contre, on peut le trouver à Publico. Voilà, donc il y a quelques exemplaires à Publico, donc ça s'appelle Ceux d'en face. Et donc avec le dernier, on peut considérer que ça forme une petite trilogie. Donc ce sont des romans jeunesse. Le premier et le troisième sont différents du second, parce que le second, il y a 2 thèmes. Il y avait à la fois une critique des médias par rapport à leur façon de traiter du sujet des banlieues. Donc c'était beaucoup ça, c'était vraiment une critique médiatique, mais vue à travers le regard de jeunes ados, on va dire, enfin de grands enfants. Et c'était aussi l'histoire d'une amitié entre deux collégiens qui habitent, en fait, dont les lieux d'habitation sont séparés simplement par une rue. Et cette rue est vue un petit peu comme une frontière, parce que chacun des enfants a un a priori sur le quartier qui se trouve en face de lui. Celui qui vit en résidence pavillonnaire a une vision des quartiers uniquement à travers ses parents, qui eux n'en ont qu'une, qui est faite à travers les médias. Donc c'est une vision faussée. Et dans les quartiers, c'est pareil, ils ont une vision un petit peu erronée de tout ce qui est en dehors de la cité, en considérant que tout le monde vit un petit peu comme des nababs si on n'est pas dans les quartiers. Donc ces gamins, il y a uniquement un concours de circonstances qui va faire qu'ils vont se rencontrer, et chacun va apprendre à découvrir son monde. Et voilà, donc on retrouve toujours les mêmes personnages. Il y a Théo, qui est le gamin du quartier, et qu'on retrouve donc lui dans le premier, dans le troisième. Et en fait, c'est un petit détective, quoi. Et j'aborde des thèmes d'actualité à travers une enquête menée par... c'est des petits Sherlock Holmes et son acolyte Watson. Donc c'est Théo et Sacco qui se découvrent, qui découvrent des choses un petit peu bizarres dans le quartier et qui mènent leur enquête. On va découvrir, dans le premier, ça traitait des migrants, ça traitait des Roms aussi. Et le dernier aussi, donc les sources d'or, parce que du jour au lendemain, Théo, donc, se rend compte que certains... ce qu'ils appellent des grands, donc ceux qui ont une vingtaine d'années, commencent à vivre, à mener un grand train de vie. Et ça l'étonne parce que ils ne travaillent pas forcément et donc peu à peu, ils vont se rendre compte qu'une partie de la population va commencer à vivre de façon, voilà, un petit peu dispendieuse, en s'achetant des voitures de luxe, en allant dans les grands restaurants. Donc ils disent, il y a quelque chose qui se passe, qui est pas normal. Et son frère aussi va commencer à avoir de l'argent. Donc comme son frère est uniquement équipier chez McDo, il dit, c'est pas possible qu'en étant équipier chez McDo, il puisse avoir autant d'argent. Donc il va commencer à mener son enquête. Et donc, pour dire mes sources d'inspiration, il y avait à la fois l'histoire de Tony Musolin à l'époque, le gars qui travaillait depuis une dizaine d'années pour une société de convoyeurs de fonds, qui avait volé en fait, et il y a 2 millions en fait qui n'ont jamais été retrouvés. Il a fait de la prison, mais il y a une partie de l'argent qui n'a jamais été retrouvée. Donc je me suis inspiré de ça. Et l'autre source d'inspiration, bon, je peux pas en dire davantage, mais c'est on va dire toute l'histoire de Serge Dassault à Corbeil.
Ouais.
C'est à Corbeil, hein, c'est ça, parce que je confonds
tout. Oui, 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 c'est Corbeil. Corbeil, ça.
Voilà.
Ouais.
Et tout ce qui tourne autour de son élection, de ses élections, du rapport à l'argent. Ce que je démontre dans le livre, c'est vrai que le c'est un peu ce qui s'est passé là-bas à Corbeil, c'est que quand l'argent a commencé un petit peu à être répandu comme ça sur un quartier HLM, ça détruit des relations humaines de façon assez violente. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que je traite à travers ce roman. Donc c'est des romans jeunesse, mais qui peuvent être lus par tout le monde.
Oui.
Et puis c'est sous la forme d'une enquête, donc avec des fausses pistes, etc. Et ça se passe toujours dans la cité Fleurie, donc qui est un quartier HLM imaginaire. Et voilà, donc on retrouve à peu près les mêmes personnages. Et voilà, ça permet vraiment de traiter des sujets d'actualité d'une manière un petit peu différente. Voilà.
Alors, justement, le dernier éditeur, enfin un des éditeurs, Thierry de Perrault, à propos de Un hiver de chien, disait que l'ensemble de tes ouvrages, livres jeunesse plutôt, puisque c'est le titre, nouvelles et romans, s'inscrivent dans la lignée de la littérature sociale.
Oui,
hein,
oui,
c'est
oui.
Ça, puisque là, exactement, puisqu'on essaie de... Alors, sur, tu dis, le lien avec les trois, pour celui de, je le rappelle, donc les sources d'or de la cité Fleurie, et c'est ça les sources d'or, hein, c'est-à-dire voilà. Le pognon.
D'où viennent les sources, donc
ouais.
C'est ce que va s'atteler à trouver le gamin, et puis c'est, enfin il n'est pas tout seul, il va être aidé par deux autres personnes, savoir d'où viennent ces sources, voilà.
Et alors, bon évidemment, on voit bien que le thème, hein, puisque la société capitaliste, en particulier là on parle de Dassault, avec, tu as vu, pour les Parody Papers.
Oui.
Alors là, c'est encore un truc qui sort, là. Hein, ils appellent ça des journalistes d'investigation. Hein, c'est formidable. Donc, mais on dira pas que c'est un pléonasme. Hein,
journaliste
d'investigation. Alors, journaliste d'investigation, là aussi, la découverte, enfin, des sommes quand même énormes,
ah,
hein,
oui.
De 350... milliards d'euros. Certains disaient, bah oui, ça fait quoi? Bah si, ça fait quand même des choses, hein, pour ça pourrait faire, alors je ne sais pas, aussi toujours des écoles, des services publics, on va parler des hôpitaux en particulier.
Oui.
Tout ce pognon et puis la redistribution.
Et c'est là évidemment qu'intervient justement la théorie du ruissellement.
Oui.
Je pensais que c'était enterré ça, mais c'est ressorti
la théorie du ruissellement. Voilà. Alors rappelez si aux auditeurs, hein, ils le savent bien, la théorie du ruissellement. Plus les riches deviennent riches, évidemment,
plus ils vont partager, et plus on va en bénéficier.
Toute la société en
bien
profite,
sûr.
Hein. Ouais. On sait très bien évidemment que c'est une escroquerie. Alors à propos de ton dessin justement sur la théorie du ruissellement, vous pouvez le voir, hein, allez sur le blog de Chronique Hebdo bon, ça n'a pas été marqué, bon ça arrivera peut-être, je soulignais le tableau de James Ansor, hein, à la fin du 19e siècle, ça s'appelait Alimentation doctrinaire. On le rappelle, hein, puisque les puissants entre guillemets de l'époque, le roi, la reine et son petit et le petit prince, les militaires, le gouvernement, les banquiers, la population demande des droits, elle demande aussi dedans, il y a une petite pancarte suffrage universel, hein, James Ensor, il pensait à tout. Mmh. Et en réponse, bah on leur pisse dessus et on leur défèque dessus en disant voilà ce que vous méritez. Et comme on l'évoquait tout à l'heure avec la chasse à cour, ça n'a pas changé. Alors là aussi, elle avait raison de souligner, hein, on parlait de l'auteur dans son ouvrage, évidemment le mépris. Là, les dernières informations, c'est aussi encore une association, le Secours catholique, et ça fait toujours rigoler, hein, le Secours catholique, les derniers chiffres nous disent que les pauvres sont toujours plus pauvres, que la misère s'étend, et que les gens, parce que c'était des promesses de tous ces crétins de présidents,
oui,
là aussi ça pléonasse, de dire que du temps même de Jospin, hein, après il n'y aura plus, il n'y aura plus un seul SDF, hein, dans la rue à la fin de l'année 2000, 2005, 2010, 15, 17. Donc là aussi pour le Macron c'était la même chose et les chiffres là sont tombés comme d'habitude. Ça ne fait que croître et embellir donc dans les rues de la capitale. Alors on voit, hein, parce qu'il y a tous les petits Madame Hidalgo, donc qui se déplace beaucoup. Enfin, ils se retrouvent à plusieurs pour faire des vélos. Hein, non, tu sais, les derniers trucs, c'est les vélos allégés.
Oui,
pour,
oui,
vélos
oui,
allégés oui, pour oui. Le régime. Donc, alors, là, je sais pas si t'as vu ça. C'est, ils sont un peu partout. Ils sont plus attachés à leurs bornes et tout ça.
J'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore constaté.
Ouais, mais il y a un système qui permet de les déverrouiller. Enfin, je ne sais pas parce que je pense pas que c'est en accès libre. Hein. C'est gratuit, évidemment. Non,
mais j'ai entendu dire que ça allait augmenter justement
la tarification des. C'est ça, c'est ça. Alléger le vélo, mais le prix.
Alors dire le prix.
D'utilisation. Enfin, pour ce qui est, alors. Fred, donc cet ouvrage pour les adolescents, parce que j'ai vu qu'il y avait des panneaux, hein, sur la quatrième de couverture. Donc on, là aussi, puisqu'on est en système d'élection permanente, hein, donc il y avait électeur, c'est le panneau que tu as mis avec la grève. Il y a aussi un homme neuf ou hein, c'est ça, non, Marcel.
L'homme bœuf, en fait, c'est un nom qui a été détourné. Donc c'est l'homme bœuf. Ils ont fait des petites cornes.
D'accord.
Parce que le roman se passe aussi pendant les élections municipales de la ville. Donc il y a des jeunes qui démarchent pour tel ou tel candidat et voilà. Donc j'évoque aussi ce côté-là des élections municipales. Voilà. Mais donc il y a quelques illustrations qui évoquent ça et
il y a un chien qui justement puisqu'on parle
il a envie de se soulager là, c'est pas celui de Macron celui-là, il est plus inspiré
un chien qui sait où il faut pisser, oui, tu aurais, comme on l'avait évoqué le Nemo.
Ouais.
Mais c'était bien déjà, je trouvais que bon sauf qu'il pissait sur le mobilier, mais il aurait pu pisser sur son maître, peut-être s'il était mieux dressé. Et puis aussi l'autre panneau, voter menteur. Mais là aussi, hein, bon, ce ne sont que des menteurs, puisque tous les candidats, toute leur profession, comme on dit de fois, ce n'est que disaient certains, que des menteries. Hein, c'est que des menteries. Alors, cet ouvrage, alors, tu penses, alors, à Publico?
Oui, il sera chez Publico, il sera disponible assez facilement. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore la date, parce que le diffuseur n'a pas encore reçu les livres, mais c'est une question de 3 semaines, je pense, avant qu'on puisse le trouver assez facilement, quoi.
Donc on rappelle pour Publico, il y aurait peut-être un endroit, enfin un présentoir
pour Noël, je crois qu'ils font
avec
chose
les
spécial
éditions
sur
jeunesse.
Tous les livres jeunesse au moment des fêtes, il y a quelque chose qui va être fait dans la librairie, ouais.
Alors je voulais juste vous dire parce que tu sais quelquefois pour Publico rappeler, c'est la librairie de Radio Libertaire et du Monde Libertaire, l'adresse 145 rue Amelot, Paris 11e, c'est ouvert tous les jours. à partir de 14h, hein, c'est fermé le lundi, du mardi au vendredi 14h, 19h30, samedi 10h, 19h30. Et je vous le rappelle aussi, vous pouvez aller, hein, pour nos amis en dehors de l'Île-de-France, hein, de tous les pays et de tous les lieux où on peut écouter Radio Libertaire, que vous pouvez commander ces ouvrages-là. Mmh. Hein, avec là c'est la poste qui fonctionne, Rex qui fonctionne, pour commander vos ouvrages sur le site de la librairie Publico. Alors, juste rappeler l'actualité, parce qu'il se passe beaucoup de choses, hein, dans cette librairie. C'est aussi cabaret chanson, enfin, il y a eu plusieurs avec l'association Mots et Musique. Jeudi, c'est-à-dire ce soir à 19h30, donc il y aura l'émission Femmes Libres de Radio Libertaire pour évoquer les femmes dans la révolution russe de 1917, hein, donc ce partir de 19h30. Et puis demain, 10 novembre à 19h30, une soirée François Villon avec Bruno Daraki et Joblin, là, pour des œuvres qui sont exposées à Publico. Spectacle de Bruno Daraki qui racontera l'affaire du vol de la borne du Pète au Diable. Formidable, du Pète au Diable. Et dira la balade des dames du temps jadis de François Villon pour l'actualité de Publico. Et alors aussi, Fred, alors ton dernier ouvrage important, celui-là. Alors donc, je pense qu'à Publico, j'avais su que beaucoup de gens, hein, se l'ont procuré dès sa parution. Un hiver de chien. Alors, un hiver de chien, donc là aussi, c'est les éditions de Perrault. Mmh. Et rappeler que c'est l'époque, revenir sur l'hiver 70-71, et c'est les quelques mois avant la Commune de Paris. Et là aussi, fait remarquable, alors tout ce qu'on ne sait pas, hein, tout ce qu'on ne sait pas, et sur cette période-là, hein, puisque évoquer la Commune de Paris, mais tout ce qui a pu se dérouler et comment les Parisiens ont pu passer, parce qu'ils n'y passeront pas l'hiver, mais ont pu passer l'hiver 70-71 dans des conditions épouvantables. Donc les Prussiens, le siège de Paris, rapidement.
Oui, oui, oui.
Hein, et puis, la particularité, ils n'avaient rien à manger.
Grand-chose à manger, et puis la température, c'était un hiver assez terrible, puisqu'il y a eu jusqu'à des moins 18, et dès le mois de novembre, il a fait très froid, donc plus de quoi se chauffer non plus, oui, donc ça a été des conditions assez terribles, beaucoup de morts de maladies, le sacrifice des animaux dont on avait aussi qu'on avait évoqué la dernière fois que j'étais venu pour parler de l'ouvrage. Mmh. Et puis je me suis rendu compte, parce qu'il n'y a pas très longtemps, je suis allé le présenter au CIRA à Marseille, que c'est vrai que la période est très très mal connue dans le détail, quoi, dans le quotidien, parce que moi, ce qui m'a plu, c'était de raconter le quotidien. Ouais. Parce que j'ai lu beaucoup de témoignages, et moi, en l'écrivant, j'ai énormément appris aussi sur la période, hein, le siège, j'en avais entendu parler, mais vraiment très vaguement, et là, je suis vraiment entré dans le détail de cette période, et je me suis rendu compte que les personnes découvraient vraiment cette période qui est complètement ignorée, parce que c'est vrai que sur cette période, moi, j'ai des images de charges de cavaliers prussiens, de cavaliers français, un petit peu Napoléon III. Après, c'est vrai qu'on oublie même la déclaration de la Troisième République, et puis le siège. C'est vrai que c'est pas du tout, on en parle très très peu. Mmh. Et puis après le siège, il y aura 2 mois, et 2 mois après, la Commune commencera. Et on comprend le lien un petit peu entre tout ce qu'ont duré les Parisiens, le sentiment de trahison vis-à-vis de ce gouvernement de la Défense nationale, du gouvernement des Jules, et voilà.
Alors justement, les Jules Ferry, Ferry Famine.
Bah, Ferry Famine. Alors je sais que Ferry Famine, je me demande s'il n'y avait pas aussi une affaire par rapport au Tonkin, une époque où vous avez affamé les populations aussi. Et je crois que c'était justement à l'initiative de Ferry. Mais il y avait le pain Ferry aussi dont on avait parlé, le pain noir terrible à manger, puisque c'était Ferry qui était chargé de tout ce qui était nourriture.
Alors abominable personnage, oui, bah, évidemment donnant son nom à des centaines de lycées, qui portent bien ce que c'est qu'un lycée Jules Ferry, abominable personnage,
Jules Favre
colonialiste, revanchard, toutes les qualités de tous ces Jules.
Pourtant une des personnalités les plus connues, les plus représentatives de la République bourgeoise,
c'est ça,
Jules Ferry.
Là aussi, c'est de montrer qu'est-ce qui caractérise ces républiques. Évidemment, l'ignominie de cette bourgeoisie qui a rien lâché, qui est toujours là.
Cette bourgeoisie
qui est plus que là et qui est cachée, dont on ne parle pas, parce que l'ensemble de la population lui fait croire que ça n'existe plus. Alors que c'est la même chose, exactement, mais sous d'autres formes. Alors, sur cette période-là, et aussi les animaux de compagnie, il a disparu. Pour l'histoire de ce petit chien,
Floréal,
le nom, tu l'as choisi pourquoi?
Je l'ai choisi par rapport à l'aurore boréale qu'il y a eu à Paris, je crois que c'est le 24 octobre, à peu près, enfin, à la fin du mois d'octobre 1870. Et donc le ciel s'est embrasé, donc on a pensé que c'était peut-être les Prussiens qui mettaient le feu aux forêts autour de Paris, mais non, c'était une aurore boréale, c'est peut-être une des dernières qu'on a pu voir à Paris. Et donc ça, je l'avais lu dans un des témoignages qui m'a servi de document, une femme a mal entendu aurore boréale, et donc elle a cru comprendre aurore floréale. Et donc la gamine qui à un moment est là, ma petite héroïne qui est là dans la foule, entend aurore floréale, elle trouve que le nom est beau, donc elle va prénommer le au début le chien aurore floréale, et comme c'est un mâle, elle va l'appeler floréale. Et voilà, donc c'est un petit peu la trame de l'histoire. Pendant tout le livre, elle essaie de défendre son chien, puisque les chiens finissaient chez les bouchers. Les maîtres qui ne pouvaient plus les nourrir allaient les vendre eux-mêmes, ou parfois c'était les bouchers qui venaient les récupérer. Et voilà, puis après on l'avait évoqué aussi, les animaux du jardin des plantes, qui ont terminé eux dans les assiettes de ces messieurs dames des beaux quartiers. Mais tout y avait passé, parce que j'avais
l'éléphant,
j'avais la liste des animaux, j'ai retrouvé une liste des animaux, des choses, peut-être même des espèces qui ont disparu depuis, mais les ours, les gazelles, enfin c'était assez incroyable. Et donc certains n'ont manqué de rien, par contre, puisque j'ai lu le témoignage de Goncourt, celui des deux Goncourt qui est encore vivant. Et donc ils ont manqué de pas grand chose, parce que eux se allaient régulièrement chez Brébant. Donc je crois que c'est du côté du boulevard des Italiens, et ils ont pu être nourris très correctement pendant tout le siège, au contraire des quartiers populaires où c'était les cantines municipales et puis les fourneaux économiques qui essayaient de pallier un petit peu au manque de nourriture. Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant. Moi, quand j'ai choisi le sujet, je savais qu'il y avait très peu de choses qui avaient été écrites. C'est un sujet qui a été très peu traité.
Pour des raisons, on peut peut-être penser à ces différentes raisons, c'est-à-dire de pas de faire l'impasse, puisque c'est l'impasse sur la commune. La révolution, la première révolution réellement populaire, puisque on apprend aux petits enfants la révolution bourgeoise. En leur parlant, de certaines révolutions, comme on revenait sur celle de 48, mais une révolution par le haut, plutôt que par le haut que par l'ensemble de la population. À ce sujet, tu le sais, on le rappelle pour le. Beaucoup de textes écrits au moment préparatoire à la Commune de Paris d'inspiration proudhonienne. Il y en a des quantités, puisque je vais annoncer prochainement, donc le vendredi 17 novembre, 17 novembre, c'est bientôt, Université Paris-Nanterre, donc bientôt à la célèbre 50 ans de 68 avec Monsieur Cohn-Bendit, et donc le bâtiment F, salle des conférences, C'est vendredi, hein, donc ça aura lieu à partir de 9h30 jusqu'à 17h. Proudhon et l'idée de révolution, hein, le colloque annuel de la société Pierre-Joseph Proudhon qui a lieu tous les ans et quelquefois, mais c'est bien aussi, ne se passait pas à Paris puisque ce n'est pas le centre de la France, hein, pour ça aussi. Mais alors là, l'université de Nanterre, ça peut donner des idées, hein. Proudhon, l'idée de révolution 68, qui est une révolution, hein, puisque là aussi c'est un peu occulté, tout ça, faut plus en reparler. Ça a failli, ça a changé beaucoup de choses, en tout cas sur rappeler quand même la plus grande grève de l'histoire de France. 68, la plus grande grève de l'histoire de France, hein, 10 millions de gens donc avaient arrêté le... Bonjour. Avaient arrêté le travail. Alors, voilà pour cette annonce, hein, Fred. Alors, cet ouvrage, alors, on le rappelle, Un hiver de chien, donc on peut trouver à... Entre autres
à Publico, je
à pense Publico, encore. Mais tu as été aussi, il y a d'autres endroits, tu m'as dit, non, tu avais été.
On le trouve beaucoup dans le 13e arrondissement, essentiellement, et le 5e arrondissement, ouais.
Et
auprès de chez l'éditeur, Thierry de Perrault aussi.
Exactement. Et une autre radio sur la, auquel tu as participé, du côté de Bordeaux, non?
Non, c'était du côté de Saint-Afrique, là.
Saint-Afrique.
Oui.
C'est
voilà,
ça.
Où j'avais présenté le livre aussi. Voilà. Et là, je le présenterai aussi au mois de février, sans doute à la mairie du 13e arrondissement.
Oui.
C'est la Société d'histoire et d'archéologie du 13e qui m'invite, puisqu'en fait, je l'ai pas précisé, mais l'action du roman se déroule essentiellement dans le 13e arrondissement.
Oui.
Voilà. Donc je serai invité à le présenter. Je recommuniquerai les dates, mais je ne sais plus si c'est le 8 ou le 15 février.
Voilà. Alors, là aussi, on rappelle un samedi, dont l'émission Chronique Rebelle. Donc, on revient sur ton dernier ouvrage, Les sources d'or de la Cité Fleurie, hein, aux éditions Champ d'Ortie. Vous évoquerez aussi les éditions. Une personne.
Oui, on vient pour parler avec Neil Jobard, qui fait partie de la maison d'édition. On vient pour parler d'une dizaine d'ouvrages, des albums jeunesse et des romans jeunesse.
Alors, donc, pour cette émission, je vous le rappelle, à partir de midi, de Rimes et de Notes, hein, émission sur la chanson. On a évoqué aussi, on n'a pas parlé, mais les bonnes nouvelles, hein, ce qui s'est passé aux États-Unis. Dieu est amour, hein, puisque je rappelais que quelques citations pour Proudhon, il évoquait que l'anarchie c'est l'ordre. Hein. À ce sujet, je vais le dire, hein, une émission où vous pouvez aller podcaster, et là ça marche, donc sur France Culture, du samedi 28 octobre 2017. Autour de Pierre-Joseph Proudhon, avec pour titre « L'anarchie, c'est l'ordre ». L'anarchie, c'est l'ordre. Alors, on rappelait évidemment la propriété, hein, ça tout le monde le sait. Il disait, parce qu'il avait fait un petit tour par l'Assemblée nationale, que le député est prisonnier de l'institution qu'il représente, il s'en est aperçu, c'est pour ça qu'il est parti. Et aussi, Dieu, c'est le mal. Et Dieu, c'est le mal, on l'a vu aux États-Unis. En particulier avec ce qui s'est passé, à Sant'Antonio, pour reprendre le titre de différents bouquins de Frédéric Dard, et la tuerie de Sant'Antonio, avec une certaine logique, puisque 25 pèlerins donc se sont retrouvés instantanément au paradis. Et c'est vrai que on ne voit pas pourquoi les gens peuvent pleurer, puisque plusieurs couillons d'États-Uniens, dont le président Trump, a dit il faut prier pour les victimes. Alors, ce qui se passait, ils étaient déjà victimes de la religion, parce qu'ils étaient tous en train de prier, quand l'autre est rentré, alors précisé, ancien militaire. Hein. Donc, il s'était entraîné.
Il était bien formé.
Il est formidable. Hein. Tous rejoints, et donc, il a voulu faire un voyage rapide, hein, en urgence, comme dis-je, donc, de coach, hein, du coaching, pour vous retrouver instantanément au paradis. Alors ça, ils l'ont un peu... Là, ils n'ont pas parlé de terrorisme, hein, pour ça, là. Les mots, comme on dit, sont choisis. Et l'importance, évidemment, nous sommes, ce que je te disais, le curé puisque vous êtes, c'est pas Radio Notre-Dame, mais on écoute beaucoup les radios concurrentes. Le curé de Saint-Ferdinand des Ternes, c'est une église du 17e arrondissement. Explique l'origine historique de la fête de la Toussaint, puisque c'était la jeudi dernier, hein, pile poil. Il rappelle que les traces religieuses chrétiennes sont omniprésentes dans l'espace public de notre pays, en disant, quand vous habitez en France, vous fêtez une Toussaint permanente. Alors on s'est dit, formidable, on a quelle chance on a. Alors il dit, pourquoi ? Nous sommes environnés de saints. Le Macron, il habite et travaille rue du Faubourg Saint-Honoré. Alors travaille, évidemment, ce que ça veut dire. Les exploits des footballeux qu'adorent les pelouses, hein, c'est le Paris Saint-Germain, hein, et les Verts de Saint-Étienne, on se souvient. On se fait soigner quand on peut, quand il y a de la place, aux hôpitaux Saint-Antoine ou Saint-Vincent-de-Paul. Quand on débarque, on fait de la SNCF, c'est la Marseille à Bordeaux, c'est Saint-Charles, les Gardes ou Saint-Jean. Hein, voilà. Et plus d'une commune française sur 10 porte le nom d'un saint. Les départements, cette proportion peut s'élever jusqu'à une commune sur 3. Et dernière nouvelle, puisque ça me concerne un peu, la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, dans les années 60, a pris le nom du jeune martyr romain du 3e siècle, venu évangéliser le nord de la Gaule. Ça lui apprendra donc 50 ans en Yvelines. Et alors, bonne nouvelle quand même, parce que tu parlais tout à l'heure de Floréal, les révolutionnaires français avaient donné l'exemple en remplaçant les semaines par des décades, hein, sortir du temps chrétien, dont on n'a pas parlé, on aurait pu en parler, dans lequel nous sommes, et le calendrier des saints par celui des volailles ou des plantes potagères. Hein, c'est quand même mieux. Donc voilà comme information pour l'émission qui va commencer à midi, Marlène, avec tes invités. Alors aujourd'hui, qui y aura alors ?
Suzanne, Christian Delannex,
oui,
et également Annick Cizaruc et Bruno Daraki.
Ah ben voilà, on l'a annoncé pour demain à 19h30 à la librairie Publico. Fred Maurice, alors pour les auditeurs, bah, ils peuvent réécouter l'émission, puisqu'elle est normalement enregistrée sur le blog de Chronique Hebdo,
par José. Hein,
et pas sur le podcast de Radio Libertaire, qui ne fonctionne toujours pas, et te retrouver, eh bien, samedi dans l'émission...
À partir de 13h30,
voilà, avec Christiane. Voilà, avec Christiane,
croisement.
Alors, je vous le rappelle, il y a un hiver de chien, hein, édition de Perrault, vous pouvez trouver, et ton dernier ouvrage, Les sources d'or de la cité fleurie, aux éditions Champ d'Ortie.
Voilà,
Fred Maurice.
Ben, merci à toi.
Et ben, écoute, à très bientôt.
Oui, avec plaisir.
Et puis, pour te retrouver aussi sur le blog de Chronique Hebdo.
Voilà.
Cette émission est terminée, on se retrouve peut-être, c'est toujours peut-être, la semaine prochaine. Et puis, vous pouvez aussi aller à la Halle Saint-Pierre à Paris. Le dimanche après-midi, vous avez une émission, c'est pas une émission, mais une présentation d'ouvrage autour de l'art brut, l'art des fous, l'art brut. Et vous verrez que l'art des fous, c'est pas souvent celui qu'on peut croire. Voilà pour Chronique Hebdo. Et je vous dis normalement à la semaine prochaine. Salut !